Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. 45 degrés à l'ombre aujourd'hui dans le sud de la France. Alerte rouge, canicule à la une, c'est inédit. Conseil interministériel pour suivre au plus près la situation ce matin. Nous serons à Avignon dans un instant. On verra couvrir les bouches à incendie pour se rafraîchir. N'est vraiment pas une bonne idée, un enfant dans un état critique ce matin. Nous serons dans l'intercité Paris-Clermont d'hier soir, 18h. Il n'est toujours pas arrivé. À Saclay, en région parisienne, où l'on garde le frais grâce à une clim innovante, moins énergivore. Et à Osaka, où le sujet du climat s'impose au G20 européen contre Donald Trump. On verra d'ailleurs ce qu'en dit votre invité tout à l'heure.
Oui, beaucoup de sujets au programme de notre entretien avec l'eurodéputé La République En Marche, Pascal Canfin. Il est dans le grand entretien de la matinale, dans une vingtaine de minutes. Amis auditeurs, appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000.
À la une également, Donald Trump a mis l'Amérique dans une situation horrible, signé Joe Biden au second débat des primaires démocrates. Angela Merkel reprise de tremblement et on ne sait toujours pas pourquoi. Et puis 21h ce soir, France-États-Unis, quart de finale de la Coupe du Monde féminine de foot. Ce sera chaud dans tous les sens du terme.
France Inter.
Ça n'est pas la météo du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, mais celle du Gard, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. 42 à 45 degrés attendus ce vendredi. Des records absolus de température devraient être battus. Bonjour Sébastien Sabiron.
Bonjour.
Vous êtes à Avignon, 43 prévu chez vous dans la journée. La ville se réveille à l'aube d'une journée dantesque.
Et le mercure frôle déjà les 25 degrés ici dans la Cité des Papes. Une chaleur lourde, épaisse, moite, qui met les organismes à l'épreuve. Barbara est réceptionniste dans un hôtel. Elle vient de passer une nuit difficile.
Quand on est à l'intérieur des remparts qui protègent, on va dire, soi-disant, un peu du vent ou quoi que ce soit, c'est super étouffant. J'ai pas la clim là, parce que ma responsable a tout bêtement oublié de l'allumer. Je voulais aller à la piscine, mais elle était fermée. C'est invivable.
Ici, les fortes chaleurs, on connaît bien, nous dit-on, mais rarement dès le mois de juin. Mimoun est sans abri, il a passé la nuit sur un banc en centre-ville.
J'ai pas dormi moi, cette nuit j'ai pas dormi. Je suis en caravane et 42 faisait hier.
42 dans la caravane?
C'est un bon petit four. Les gens qui sont dans la rue, c'est difficile pour eux. Encore plus, parce que souvent on se plaint de froid. Mais la chaleur, c'est trop dur.
Et Mimoun de pester contre la fontaine d'eau potable à proximité qui reste désespérément fermée malgré la canicule.
Sébastien Sabiron en direct d'Avignon. Les écoles vont rester ouvertes chez vous à Avignon. Sébastien, aujourd'hui elles seront fermées. En revanche à Nîmes, seul un accueil d'urgence sera assuré. À Montpellier, écoles et crèches fermées à partir de midi. Elles resteront ouvertes à Marseille qui attend 38 degrés. Là-bas les musées et les piscines seront gratuits jusqu'à dimanche. Dans les villes, pour se rafraîchir, il est devenu commun d'ouvrir les bouches d'incendie. Mais cette mode venue des États-Unis est extrêmement dangereuse. Hier soir à Saint-Denis, un enfant de 6 ans a été projeté sur plusieurs mètres à l'ouverture d'une de ces arrivées d'eau que seuls les pompiers ont droit d'utiliser. Il est entre la vie et la mort, d'où cet appel répété par le maire de la ville, Laurent Russier. Il faut laisser ces bouches fermées.
Ça fait depuis de nombreuses années que nous, maires, nous parents, associations, n'arrêtons pas d'alerter sur le fait que c'est extrêmement dangereux d'ouvrir ces bornes d'incendie. C'est déjà dangereux d'un point de vue purement fonctionnel, parce que je rappelle que les bornes d'incendie servent à être utilisées par les pompiers en cas d'incendie. Et malheureusement, une borne ouverte, vu la pression qui diminue, fait que les pompiers seraient en incapacité de gérer un incendie si tant est qu'il y en avait un. Et puis on le voit malheureusement, on a déjà eu trop d'accidents par le passé, avec, y compris dans une ville voisine, un enfant qui s'était fait couper un doigt par rapport à la force de ces bornes d'incendie. Ça entraîne des inondations de bâtiments à proximité, puis on le voit là avec ce terrible accident, que c'est extrêmement dangereux. Donc même s'il fait chaud, même s'il y a la canicule, même si on se doit de mieux aérer nos villes, les végétaliser, ça ne peut pas être une raison pour ouvrir les bornes d'incendie quand on connaît la dangerosité, comme malheureusement le drame le remonte.
Et n'est-ce pas le pire moment pour se trouver coincé dans un train en panne? Les voyageurs de l'intercité Paris-Clermont, en plein cauchemar depuis hier soir, leur train qui devait partir à 18h a commencé par être retardé de 2h à cause d'un suicide. Puis il s'est immobilisé vers 22h30 au sud de Montargis, caténaire rompu. La suite, c'est 6h d'attente avec un transfert dans un autre train à 4h30 ce matin. Jointe vers 5h, Sophie y est toujours.
On est sorti, on est resté dehors pendant à peu près 6 heures, le temps d'être évacué. Et là, on est bloqué dans un nouveau train. Donc, c'est un peu dantesque. On a avancé de, peut-être 10 kilomètres, et on est de nouveau bloqué. C'est vraiment un cauchemar, et c'est un peu sans fin. On dit que ça a commencé par un suicide. On est resté 6 heures sans toilette, sans eau, sans rien. Et là, d'un coup, non. En fait, on n'arrive toujours pas, hein. C'est incroyable, je pense. Moi, la dernière fois que j'ai pris ce train-là, j'avais 45 minutes de retard aussi, hein. Là, c'est 12 heures, donc... Et c'est récurrent, en fait. Parce que le matériel est vieux. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans, en fait. On arrive à ce genre de nuit où on essaie de rentrer chez nous et on n'y arrive pas.
Voilà, arrivée prévue à Clermont, au mieux à 9h30 ce matin, au lieu de 21h15 hier soir. Et pour éviter ce genre de mésaventure sans clim, évidemment, quand le train n'est plus alimenté en électricité, la SNCF propose aujourd'hui de changer ou de rembourser les billets des voyageurs qu'ils souhaitent jusqu'à dimanche dans toute la France. Et elle conseille de reporter ou d'annuler ses déplacements dans les 4 départements en alerte rouge. Aujourd'hui.
Et comment se passer de la climatisation, Florence? Il est 8h06 par ces chaleurs suffocantes.
Elle est salvatrice pour ceux qui l'ont chez eux ou dans leur bureau, mais très mauvaise pour la planète. Le campus de Saclay, dans le sud de Paris, semble avoir trouvé la parade. Un réseau nouvelle génération, économiquement moins énergivore, qui vient de rafraîchir les grandes écoles et les appartements. Explication in situ, signée Célia Quéret.
Ici, c'est les thermofrigopompes qui fonctionnent comme un gros frigo.
Nous sommes dans les sous-sols de l'école d'ingénieurs centrale Supélec. Ces pompes, au nom un peu barbare, tournent à plein régime pour refroidir l'eau puisée 700 mètres sous terre. Cette eau, naturellement à 30 degrés, descend à 7 degrés pour rafraîchir les bâtiments. Nicolas Hérault est le directeur de projet de ce réseau de chaleur et de froid.
On rejette moins de calories dans l'atmosphère qu'une climatisation classique. Et en plus, la performance énergétique est optimisée. Rien n'est perdu et les calories issues de la production de froid sont directement valorisées dans le réseau de chaleur.
Ce réseau de froid et de chaud utilise plus de 60% d'énergie renouvelable et l'ambition est d'atteindre plus de 90%. Il doit bénéficier à 30 000 étudiants, 20 000 habitants. C'est un modèle d'adaptation au réchauffement pour Philippe Vandemal, directeur général de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
C'est vraiment aussi montrer qu'on peut apporter du froid dans une vision relativement renouvelable. On a la chance de travailler sur un réseau avant que la ville n'existe, donc on peut facilement le poser. L'infrastructure est plus facile à concevoir quand on conçoit de nouveaux quartiers de ville que quand on doit le faire dans des villes existantes. Le renouvellement de la ville est plus complexe. Mais ça se fait. Hein.
Et ces réseaux émettent 4 fois moins de CO2 que des centrales à gaz. Une façon, là encore, de lutter contre le réchauffement. Des systèmes similaires devraient voir le jour à Bordeaux et à Nice.
Et avec ou sans clim, la canicule sévit aussi ailleurs en Europe. En Espagne, il a fait jusqu'à 44 degrés hier en Catalogne et 6500 hectares de forêts ont déjà été détruits par des incendies les pires depuis 20 ans selon les autorités locales. Le climat déréglé et les menaces qu'il fait peser sur l'avenir. Et si c'était finalement ça, le sujet du G20 qui vient de s'ouvrir à Osaka? On pensait que la question du commerce serait le nœud du sommet entre les 20 dirigeants les plus puissants du monde. Bonjour Dominique André, en direct.
Bonjour Florence.
Du Japon, voilà, envoyé spécial de France Inter. Dominique, c'est l'accord de Paris qui échauffe les esprits chez vous?
Oui, et surtout celui d'Emmanuel Macron qui est vent debout pour défendre l'accord de Paris qui a été signé en 2015 face à Donald Trump. Ce matin, le chef de l'État s'est réuni avec les principaux dirigeants européens, Jean-Claude Juncker pour la Commission, Donald Tusk pour le Conseil. Il y avait aussi Angela Merkel pour l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et puis Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui est arrivé en renfort pour défendre avec ce front européen l'accord de Paris sur le climat. L'enjeu pour cette coordination Europe-Canada, c'est de contrer les États-Unis, seul pays à ce jour à avoir quitté l'accord de Paris. Les Américains font pression sur 3 ou 4 pays du G20, le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Australie et la Turquie, pour qu'ils se retirent eux aussi. Autour de la table des négociations, les États-Unis tiennent un langage dur, fait savoir l'Élysée. Et puis l'autre sujet explosif, c'est bien sûr la guerre commerciale sino-américaine, avec des négociations de nouveau dans l'impasse, qui menace la croissance mondiale, et Donald Trump et Xi Jinping se verront demain matin. Dans cette ambiance hyper tendue, les Européens tentent de trouver un peu de calme pour se consulter aussi et de tenter de trouver un accord politique sur leurs futurs dirigeants. Il n'y aura pas de fumée blanche à Osaka, mais les noms pour les 4 grands postes devraient être trouvés à temps pour le sommet de l'Union européenne qui se tiendra dimanche à Bruxelles.
Voilà, Dominique André, merci, en direct du sommet d'Osaka au Japon. Donald Trump, cible privilégiée du premier débat des démocrates cette nuit en Floride. Joe Biden à l'offensive, le favori des sondages, a commencé par ces mots.
Donald Trump nous a placés dans une situation horrible. Dans ce pays, les inégalités ont terriblement augmenté. Je vais diriger ce pays, car je pense qu'il faut assurer le salut de cette nation. Le président nous a divisés. Il a mis sur le même pied d'égalité les racistes, les suprémacistes blancs, avec les gens normaux et décents. Il a noué des liens avec des dictateurs. Il s'est fâché avec nos alliés. Je me présente aussi car je pense qu'il faut mieux traiter ce qui est la colonne vertébrale de l'Amérique. La classe moyenne, la classe des travailleurs, il faut leur rendre leur dignité. Enfin, il faut unir à nouveau ce pays. On peut accomplir beaucoup de choses si nous sommes ensemble.
Joe Biden à l'offensive avec Grégory Phillips. Et puis toujours aux États-Unis, une femme vient d'être arrêtée et inculpée pour homicide. Elle était enceinte, elle a fait une fausse couche après avoir été blessée par balle. La justice de l'Alabama lui reproche d'être responsable de la mort de son bébé parce que c'est elle qui aurait déclenché la bagarre. L'auteur des coups de feu, une autre femme, est restée libre. L'Alabama a adopté en mai une loi qui interdit l'avortement même en cas de viol ou d'inceste et qui l'assimile à un meurtre.
Il est 8h11 à Berlin hier, Florence. Nouvelle crise de tremblement d'Angela Merkel.
Elle a duré 2 minutes en pleine cérémonie officielle. Ludovic Piétenu, l'Allemagne s'interroge sur l'état de santé de sa chancelière.
Tout son corps se met à trembler, ses jambes, ses bras, son visage. Elle a beau à chaque fois tenter de se tenir les mains comme pour essayer de contenir ses tremblements, ils sont irrépressibles. La fois précédente, il était question de déshydratation. Selon son service de presse, elle avait dû boire de son propre aveu au moins 3 verres d'eau pour aller mieux. Hier, lors de ce nouvel épisode de tremblement qui dure 2 minutes, chose surprenante, elle refuse le verre d'eau qu'on lui tend. Mais l'élément de nature à inquiéter, c'est qu'autant la dernière fois elle se tenait en plein soleil, il faisait au moins 30 degrés, hier c'était en intérieur et au frais. Et pas de canicule à l'extérieur, juste une température estivale. Son porte-parole a évacué le sujet, il s'est voulu rassurant. La chancelière se porte bien, tout se passe comme prévu. Allusion à la longue séquence diplomatique qu'elle vient d'entamer, G20 au Japon, plus sommet extraordinaire européen dimanche soir. L'Allemagne est désormais vraiment inquiète, ce qui n'était pas le cas après le premier épisode. Des spasmes que même certains médias avaient alors délibérément choisi de ne pas évoquer. Mais maintenant, la question est partout. Que se passe-t-il vraiment? Et peut-elle tenir 2 ans jusqu'à la fin de son mandat? Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Ce sera sa première déclaration publique depuis son arrestation au mois de novembre au Japon. Carlos Ghosn va donner une conférence de presse depuis Tokyo où il est assigné à résidence à 14h aujourd'hui. Jean-Claude Roman lui est sorti de prison cette nuit à 3h30. Jean-Claude Roman, condamné à la perpétuité en 1996 pour avoir assassiné toute sa famille après des années de mensonges sur sa vie de faux médecin. Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches jugés en correctionnel au mois de septembre pour leur comportement pendant la perquisition des locaux de la France Insoumise en octobre dernier. Ils sont poursuivis par le parquet de Bobigny pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Marche arrière à l'Opéra de Paris. Selon le Figaro, son directeur Stéphane Lissner, qui devait céder la place pour une grande réforme de l'institution, pourrait finalement être prolongée jusqu'en 2022. La nomination d'un nouveau patron pour l'Opéra de Paris fait débat depuis 1 an et demi déjà.
8h14, 2 adversaires ce soir, Florence, 2 face aux Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde féminine de foot.
La chaleur, il y aura sans doute des pauses pendant ce match, mais surtout les Américaines, championnes du monde, rendez-vous à 21h au Parc des Princes à Paris et devant la télé, ici en France comme aux États-Unis où le foot féminin est si populaire que Fox Sports, diffuseur exclusif de la compétition, a dépêché une véritable armée pour tenir les directs depuis ses studios du Trocadéro. Visite guidée, signée Yann Gallic.
Éclairé par de puissants projecteurs, le studio géant de Fox Sports domine l'esplanade du Trocadéro face à la Tour Eiffel. La chaîne américaine a privatisé un restaurant et son immense terrasse surveillée par des agents de sécurité. Fox Sports ne lésine pas sur les moyens, avec près de 170 personnes mobilisées pour cette Coupe du Monde et plus de 200 heures d'émission en direct. David Neal est le directeur de production.
C'est un grand événement pour nous. Le football féminin est devenu très populaire aux États-Unis. États-Unis, le match de foot le plus suivi dans l'histoire de la télévision américaine, hommes et femmes confondus. C'était la finale du dernier mondial féminin, il y a 4 ans. Elle avait réuni plus de 25 millions de téléspectateurs. Et cette fois, si on compare à la précédente Coupe du Monde, nos audiences ont augmenté de 22%.
En bon supporter américain, David Neal mise sur une victoire des États-Unis contre la France.
Ce sera un match très dur qui ira peut-être jusqu'aux prolongations ou au tir au but, mais si j'écoute mon cœur, j'espère évidemment une victoire des États-Unis.
Fox Sports affiche un soutien sans faille à l'équipe nationale. Dans les bandes-annonces quasi hollywoodiennes diffusées sur la chaîne, les footballeuses américaines sont même comparées à Goliath, le géant biblique, pourtant vaincu par David.
Et américaines ou françaises, les gagnantes affronteront l'Angleterre en demi, qui s'est imposée 3-0 contre les Norvégiennes hier. Alors que nous, on a déjà gagné, Nicolas, l'équipe de France Inter a battu ses collègues et cousins de France Info 11-8.
Ça, c'est du score.
La confraternité n'empêche pas les tacles.
Jamais. Merci Florence Paracuelos.